Vous écoutez
RMC. RMC, en route pour Paris 2024.
Et nous accueillons dans notre magazine olympique un garçon qui, à 32 ans, disputera l'été prochain à Paris ses 3e Jeux Olympiques, après avoir déjà participé à ceux de Rio en 2016 et Tokyo en 2021. Sa discipline, c'est le canoë sprint, épreuve hyper physique qui se déroule en ligne droite sur un bassin. Et le but, c'est évidemment d'aller le plus vite que les autres. Notre invité, c'est Adrien Barthe. Bonjour Adrien.
Salut Christophe, salut tout le monde, bonjour.
Alors Adrien, avant d'évoquer ta qualif, tout d'abord un grand bravo car je crois que tu viens de terminer deuxième d'une épreuve de Coupe du Monde qui se déroule actuellement en Hongrie, à Szeged. Tu étais sur le podium il y a quelques instants.
Exactement, je viens de descendre du podium là.
Bon, avec une jolie médaille autour du cou.
Ouais, je suis super content. Je termine deuxième derrière le champion olympique en titre. Donc voilà, ça, c'était un début de saison pour nous. C'est la première course. J'ai aussi couru le biplace hier avec Loïc Léonard. On termine huitième sur une course où on était un peu déçus. Par contre, la course d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Elle est vraiment très aboutie et ça nous permet vraiment de lancer la saison olympique de la meilleure des manières.
Bah c'est magnifique de commencer comme ça sur une deuxième place en C1. Est-ce qu'elle est vraiment révélatrice de l'état des forces avant ces Jeux Olympiques, ou il y en a qui se cachent encore un peu? Comment tu analyses ça?
Ouais, il y a quelques absents. Il y a le Tchèque qui était apparemment malade ce week-end. Donc du coup, c'est le champion du monde en titre lui. Donc du coup, on va attendre de voir les prochaines compètes ce qu'il va donner. Il manquait aussi le Roumain qui était sur le podium l'année dernière. Mais globalement, voilà, les forces en présence étaient là. Les Allemands étaient là. Ils se sélectionnaient pour les Jeux. Donc il y avait deux Allemands dans la course. Et donc c'était quand même voilà une belle densité. Il y a eu malheureusement le retour des Russes aussi en force qui sont là, qui étaient sur le podium avec moi. Donc voilà, on est un peu spectateur de tout ça. En attendant, voilà, moi je suis super content de la course que j'ai réussi à réaliser et je me suis fait super plaisir aujourd'hui.
Bon, tu étais sur le podium il y a quelques instants, tu étais donc sur l'eau il y a encore très peu de temps aussi. On récupère en combien de temps d'une course comme ça? Ça se déroule sur 1000 mètres, hein, ta catégorie. Hein.
C'est ça, ouais, exactement. Alors moi je fais du monoplace 1000 mètres. Il faut savoir qu'au jeu, il y a deux distances olympiques, le monoplace 1000 mètres et le biplace 500 mètres, en tout cas pour les canoës hommes. Et donc du coup, moi je pratique les deux à bloc. Et voilà, aujourd'hui, bah, j'ai battu mon meilleur chrono. J'ai fait 3 minutes 47 et 2 dixièmes. Donc voilà, il y avait un temps qui était assez avantageux, il y avait un bon vent d'eau, mais voilà, c'est ce qu'il faut pour monter sur la boîte. Il faut aller battre ses chronos. Donc voilà, c'est un effort assez intense où il faut aller très très loin dans la résistance mentale. Et aujourd'hui, bah, j'avais cette qualité là et je suis content de l'avoir mis à profit.
C'est génial à 32 ans de progresser encore, Adrien.
Bah ouais, c'est trop bien. C'est trop trop bien. Alors après, faut avouer que quand même, voilà, des conditions avec le vent d'eau comme ça, c'est assez particulier. Et souvent, faut faire pas mal d'années pour trouver les bonnes conditions et puis être affûté au bon moment pour réussir à avoir ce pic de forme. Nous, vraiment, les records du monde et les records personnels, c'est pas des choses qu'on regarde vraiment. Mais ça fait toujours plaisir et ça fait du bien de le signaler, ouais.
Ça fait du bien de signaler, ça fait du bien d'obtenir une deuxième place en Coupe du Monde à quelques semaines maintenant des Jeux Olympiques. Et puis ça donne espoir. On rappelle que malheureusement pour toi, tu avais terminé à la 4e place terrible évidemment pour un athlète olympique en 2021 à Tokyo. Que ça reste évidemment dans la gorge très, très longtemps, hein, cette 4e place, Adrien.
Bah ouais, ça va faire partie de mon histoire. C'est quelque chose que j'ai appris à vivre avec. Honnêtement, sur cette course, j'ai assez peu de regrets, si ce n'est le résultat en lui-même. J'ai fait la course de ma vie, ce jour-là.
À quelques poussières de seconde en plus du podium, hein, ça se joue à
quelques. C'est exactement ça, ouais, un dixième du Moldave. C'était. Mais voilà, j'ai fait la course de ma vie. Il y avait trois gars plus rapides que moi ce jour-là. Aujourd'hui, il n'y en a qu'un seul et j'espère bien aller le chercher cet été à Vers-sur-Marne.
Bon, on l'espère évidemment pour toi. Tu le disais, donc deux catégories, le C1 donc tout seul sur 1000 mètres et le C2 avec donc ton compère Loïc Léonard sur 500 mètres. Les efforts sont différents, j'imagine. 500 mètres, c'est la moitié. T'es à deux, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on donne beaucoup moins de sa puissance, ou au contraire, on doit donner mais plus fort sur une plus courte distance? Ça doit être pas le même genre d'exercice. C'est comme un 100 mètres et un 400 mètres, quoi, en athlétisme, un peu, non?
Ouais, c'est ça. C'est un effort un peu différent où faut. C'est plus qu'un double tennis pour moi. C'est plutôt comme du tandem à vélo. On est dans la même embarcation, donc on a intérêt à être complètement synchro sur les intensités qu'on met. Donc, mais moi, c'est ce que j'aime vraiment, le biplace. C'est là-dessus que j'ai commencé en équipe de France. Et ensuite, seulement, je suis arrivé à faire du monoplace, à faire ma place en mono. Donc, vraiment, je suis très content de m'aligner en biplace aux Jeux Olympiques. Et voilà, du 500, c'est une distance un peu différente. Mais je sais que j'ai les qualités de vitesse et de puissance pour m'exprimer à bloc sur cette distance aussi. Et voilà, ça reste du canoë, quoi. On fait un sport qui reste relativement amateur. Et on est capable, voilà, avec l'expérience, de passer d'une embarcation à l'autre et d'une distance à l'autre. Donc non, ça me pose pas de problème et je prends énormément de plaisir dans les deux embarcations.
Voilà. On rappelle également qu'avec ton compère, vous avez terminé là aussi quatrième. C'était les championnats du monde l'été dernier. Là aussi, tout près du podium. Encore une fois, quatrième. Sacre bleu. Ouais. Mais là, ça va me faire, là aussi. Quelles sont vos chances de médaille? Et tu penses que tes chances de médaille sont plus élevées en individuel ou en duo avec ton compère?
Alors effectivement, j'ai eu quelques quatrièmes places dans mon palmarès. Malheureusement, bah voilà, c'est comme ça. Et on va essayer de transformer ça en métal bien bien dur pour cet été. C'était quoi la question? Excuse-moi, j'ai oublié.
Quelles sont tes chances de médaille? Est-ce que tu les considères plus
importantes? Voilà, les chances de médaille. Eh ben voilà, on termine quatrième avec Loïc l'année dernière au championnat du monde. Je termine quatrième au jeu à Tokyo. Donc j'espère que le petit home advantage qu'on va avoir à Paris va faire la différence et va nous pousser et nous faire monter sur la boîte.
Le home advantage à Vers-sur-Marne, hein, c'est là que se dérouleront les compétitions, un bassin que vous connaissez parfaitement. Mais bon, on peut vraiment avoir un avantage en connaissant bien le bassin, ou c'est la même chose pour tout le monde? Il se situe où, le home advantage, à ton avis, Adrien?
Pour moi, le home advantage, il se situe dans les tribunes, complètement, avec tous les proches qui vont être là, ou même ceux qui seront pas là, ceux qui seront derrière leurs écrans, ceux qui devront nous soutenir sur les réseaux, ou par message, ou des petits gestes comme ça qui vont nous mettre dans les meilleures dispositions. Voilà, je compte sur énormément de gens pour nous soutenir cet été. On va en avoir besoin, hein, parce qu'on va passer des moments très très stressants et on va avoir besoin de ce surplus d'énergie pour se transcender et faire la différence cet été.
Bon, ce seront tes derniers Jeux Olympiques, Adrien, ou qu'est-ce que tu comptes faire après ces Jeux? Ça s'arrêtera là ou il y a encore quelques incertitudes?
Non, je compte arrêter le haut niveau en canoë-kayak. Après, j'ai plein de projets professionnels, sportifs. Donc, non, le canoë, ça... Voilà, je pense qu'il n'y a pas de meilleure opportunité pour un athlète de mon âge, de mon palmarès, que de choisir de sortir après Paris, quoi. Tout donner pour une dernière course à la maison, c'est quelque chose qui va être très, très spécial.
Ça va être magnifique, évidemment. Une pression peut-être particulière, mais ça va être un moment incroyable à Vers-sur-Marne. Adrien, le canoë ne nourrit pas complètement son homme. Je crois que tu fais une autre activité. Tu es membre de l'armée française. Raconte-nous en quoi consiste ton rôle. T'es pas envoyé sur les terrains d'opération, j'imagine, surtout en ce moment.
Non, je fais fièrement partie de l'équipe de France militaire, anciennement bataillon de Joinville ou l'armée de champions. Ouais. Aujourd'hui, je suis sportif de haut niveau de la défense et ma mission, c'est de représenter la France sur les championnats internationaux, de monter sur le podium, de représenter non seulement la France, pardon, mais aussi l'armée française. Moi, je fais partie de l'armée de terre. Donc voilà, je suis très très fier d'appartenir à ce bataillon de Joinville qui est historique et qui nous aide au quotidien par un échange de valeurs avec les équipes, avec les soldats. On est souvent en contact avec eux et donc le bataillon de Joinville nous verse une solde tous les mois et nous permet du coup de nous entraîner de la meilleure des façons. Et donc du coup, vu qu'on est un sport amateur, ça nous permet de nous professionnaliser et de faire la différence le moment venu.
Voilà, on discute souvent de tout ça avec Rémi Boulet, que tu dois connaître certainement. Bien évidemment, sûr. Lui aussi, ancien membre de l'équipe membre de l'équipe de France, ancien membre des paras de l'armée française et qui disputera les Jeux paralympiques, lui, Rémi Boulet, qui est évidemment un de tes copains. Merci beaucoup, Adrien, d'avoir été avec
Merci
nous. Bravo
Merci
pour cette belle médaille d'argent aujourd'hui. Et puis, on va croiser les doigts. Les compètes pour toi auront lieu en toute fin de programme, je crois. Ce sera du 6 au 10.
C'est ça. Exactement.
Patienter. Tu auras l'occasion comme ça d'aller à la cérémonie d'ouverture?
L'ouverture, non, je serai pas là. Je serai encore dans ma petite bulle, dans mon petit cocon, dans le sud de la France. Par contre, j'envisage de faire une grosse fête à la clôture.
D'accord. Une belle fiesta à la clôture. Ouais, merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup, Adrien.
Merci
avant
à
la fête. Le travail, au boulot.
Bien sûr.
Merci beaucoup.
Bon
à bientôt.
À tous. Hein. Allez,
merci.
Les
merci, Adrien Barre. Donc, avec nous. Oh, Arnaud Valadon va prendre le relais. Arnaud Valadon, il ne fera pas les Jeux Olympiques. Enfin, il les fera, mais comme commentateur. Salut, Arnaud.
Salut, Christophe. Salut à tous.
Pour les dernières nouvelles olympiques du jour, il y en a quelques-unes. Et des bonnes nouvelles, d'ailleurs, je crois.
Beaucoup de bonnes nouvelles. Effectivement, on commence par Roman Dico, que tu connais bien, évidemment, athlète RMC. En finale, au Kazakhstan, la judokate a été expéditive face à la japonaise Akira Sone, qui n'est autre que la championne olympique sortante. C'était d'ailleurs la première fois que les deux judokates se défiaient. Roman Dico joue tout à l'heure sa victoire dans ce grand slam face à la chinoise Su. Je te parlais de bonnes nouvelles en tir à l'arc. C'est l'Euro à Essen en Allemagne. La France avait placé ce matin ses deux équipes en finale et les archers ont fait 2-2. Médaille d'or pour les archères Lisa Barbelin, Caroline Lopez et Amélie Cordeau. Victoire 5-3 contre les Pays-Bas. Les hommes, quelques minutes plus tard, ont terrassé l'Italie. Jean-Charles Valadon, Thomas Chiraud et Baptiste Hadis. 6-0. C'est pas terminé pour eux puisqu'il y a un peu plus dans une petite heure, Lisa Barbelin pour le bronze et ensuite chez les hommes, une médaille de bronze peut-être 100% française entre Jean-Charles Valadon et Baptiste Hadis.
Un cousin, Jean-Charles.
C'est un cousin, ça s'écrit pas pareil, c'est vrai. C'est un homonyme, mais on le suit évidemment, celui qui est originaire de Besançon. Et enfin, deux dernières nouvelles, Christophe, le taekwondo avec Magda Vietenin, vice-championne d'Europe de taekwondo en moins de 67 kilos à Belgrade. La Française a perdu 2-0 en finale contre la sensation belge. Elle a 19 ans, elle s'appelle Sarah Chahari et ça pourrait être une finale olympique avant l'heure puisque Magda Vietenin est championne du monde dans cette même catégorie en 2023. Et puis pour terminer, Christophe, c'est demain que Isaura Tibus défendra son cas auprès de la Fédération Internationale d'Escrime. La fleurettiste championne du monde 2022 a été contrôlée positive à l'Ostarine mi-janvier. Elle plaide la contamination accidentelle via son compagnon, l'ancien escrimeur Reiss Imbonen. Elle encourt jusqu'à 4 ans de suspension et évidemment une absence pour les Jeux de Paris.
Merci beaucoup Arnaud pour toutes ces infos dans notre magazine olympique en route pour Paris 2024. Et on va rester en route pour Paris avec notre nouvelle invitée. Rappelez-vous, Tokyo 2021, dernier jour des Jeux Olympiques japonais, l'équipe de France de volley s'impose en finale des Jeux en battant la Russie dans le set décisif grâce notamment à un smash incroyable d'Antoine Brizard qui offre 2 balles de match aux Bleus qu'ils ont converti un geste d'anthologie un peu à l'image de celui, vous vous en souvenez, de Prandi avec les handballeurs l'hiver dernier. Antoine Brizard qui est notre invité aujourd'hui dans notre magazine olympique. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Bon Antoine, ce genre de geste, j'imagine qu'il va te coller à la peau jusqu'à la fin de ta carrière, sinon plus. Hein. C'est plutôt valorisant.
Oui, ça l'est. Je ne l'ai pas fait pour ça. Hein, mais...
Ah non, bien
c'est
sûr.
C'est parce qu'il y a la victoire au bout. Oui.
Ben ouais, mais bon, ça reste vraiment ça reste un marqueur de cette finale quand même. C'est à ce moment-là, c'est quand même assez serré. On est dans le set décisif et ça offre 2 balles de match à l'équipe de France. S'il y a pas ça, ça peut tourner différemment, évidemment.
Oui, bien sûr. C'est ce qui me semblait être la chose la plus appropriée à faire à ce moment-là, mais j'avais pas pensé à toutes les répercussions qu'il y aurait après.
Je crois qu'on appelle une quéquette. Tu peux m'expliquer?
Je peux vraiment pas expliquer.
D'accord. Bon.
Non, voilà. J'ai aucune idée.
Bon, très bien. Cette finale et cette médaille qui resteront gravées à jamais dans les têtes des Français et surtout dans les têtes des joueurs de l'équipe de France, c'est le plus beau titre jamais obtenu par le volley français, une médaille dont tu as eu du mal, je crois, à te détacher. Il paraît même que tu dormais avec la médaille d'or pendant des semaines après les Jeux.
Non, je dormais pas avec, mais c'est vrai que c'est un marqueur important dans nos carrières, plus qu'important, et dans la mienne. Et je l'amène partout, je l'amène quand je suis en Italie, je la prends avec moi, quand je l'ai chez moi, quand je suis chez moi l'été. Et je me suis fait tatouer la déesse qui est sur la médaille, donc non, c'est un point de repère important dans ma carrière et qui me donne beaucoup de confiance. Donc
C'est une vraie compagne pour toi. Hein.
C'est vrai.
J'espère qu'il n'y a pas de jalousie de la part de ta compagne officielle.
Non, elle était d'accord.
Elle était d'accord.
Elle aimait faire aussi.
Bon, est-ce que tu as eu l'occasion de voir à quoi ressemblait les prochaines, celles de 2024, Antoine? Est-ce qu'elles iraient bien dans la collecte?
Oui, bah, je l'ai vu qu'en photo et en vidéo. Évidemment que ça irait très très bien dans la collection, oui.
Très magnifique. Alors aujourd'hui, donc la précédente est rangée. Tu rêves avec tes copains d'aller en chercher une nouvelle. Ce sera à la maison, évidemment, un peu différente. Est-ce qu'elle est accessible, cette médaille d'or? Comment tu juges le niveau de ton équipe actuelle par rapport à celui qui était le vôtre en 2021? Vous étiez parmi les outsiders, vous n'étiez pas les grands favoris de la compétition. Aujourd'hui, on a un peu l'impression que c'est à peu près la même chose, non?
Ouais, exactement. Je dirais que c'est la même chose. Le volet international, pour les gens qui connaissent peu, est hyper dense. C'est encore densifié parce qu'il y a le Japon qui a émergé depuis 2-3 ans, là, qui, avec les joueurs japonais qui jouent en Italie, qui ont fait un championnat exceptionnel, donc, qui sont presque parmi les favoris maintenant. Et sinon, c'est toujours un peu les mêmes nations qui sont favorites, la Pologne, les États-Unis.
Il n'y a pas les Russes. Il n'y a pas les Russes quand même. C'est différent.
Il n'y a pas les Russes. Et l'Italie qui à Tokyo était outsider, maintenant fait partie des favoris. Donc non, je pense que c'est toujours un peu la même chose. Les gens commencent à nous connaître. Ils savent qu'on est capable de tout dans les deux sens. Donc on espère que ça va aller dans le bon sens encore cette fois comme à Tokyo. Mais la médaille, elle est accessible, mais extrêmement compliquée.
Ouais, ce sera difficile de faire mieux. De toute façon, qu'à Tokyo, c'est un peu le problème des sports co-français. Vous avez mis la barre tellement haute que, de toute manière, là, à part régaler ce que vous avez fait, ce qui serait fantastique. Voilà. Mais on attend encore une fois les sports co-français puisque vous êtes restés quand même tous quasiment au même niveau. Même si l'après médaille d'or de Tokyo a été quand même compliqué à gérer. Il y a eu beaucoup de choses qui ont changé chez vous, notamment le départ de votre sélectionneur, l'arrivée d'un nouveau. Ça, la mayonnaise n'a pas complètement pris. Et puis, aujourd'hui, on a l'impression que le gros temps est derrière vous, que la tempête est passée, que vous êtes remis en chasse d'un nouveau titre.
Oui, bah après, la première compétition après les Jeux Olympiques, c'était la Ligue des Nations qu'on a gagnée en jouant extrêmement bien. Et on a pris une vraie claque au championnat du monde en quart de finale contre l'Italie, qui était une nation en reconstruction et avec beaucoup de jeunes, etc., et qui ont fait champion du monde cette année-là. Là, c'était une grosse déception. Et après, on fait demi-finale au championnat d'Europe l'année dernière avec beaucoup de blessés, avec un été compliqué, etc. Donc, c'est toujours pareil. Quand on n'est pas au top dans notre sport, ben, malheureusement, c'est dur de rivaliser. Donc, évidemment, on n'est pas favori comme on n'était pas à Tokyo, mais moi je crois fort en ce groupe-là et dans le caractère qu'on a tous et on va essayer de faire comme à Tokyo.
Ah oui, on compte sur vous les gars, on compte vraiment sur vous. Alors je crois que vous êtes actuellement en stage à Cannes, Antoine, avant le début des festivités. Vous avez quand même eu le temps de vous reposer avec depuis la fin de vos championnats respectifs. Je crois que tout le monde n'est pas arrivé ou alors ça arrive au compte-gouttes encore là. Hein.
Presque tout le monde est arrivé. Il manque Benjamin Tognetti, donc notre capitaine, et Jean-Patrick, qui étaient dans le même club polonais. Ils ont joué la finale de Ligue des Champions. Et c'était le dernier match possible en club. Et donc, ils ont joué la finale le 1er mai. Donc là, ils vont revenir d'ici 2 ou 3 jours. Et sinon, nous, ça fait une semaine qu'on a repris avec quasiment tout le groupe. Et à Cannes, pour l'instant. Après, on part en Turquie pour le début de la Ligue des Nations. On a de nouveau une phase de préparation début juillet autour de Saint-Nazaire avant les Jeux. Et voilà.
Ouais, c'est très chargé, mais ça, vous avez l'habitude, les volleyeurs. Oui. C'est 50 compétitions par an. Il y a toujours plus de compétitions. Avec notamment, ça, c'est quand même assez spécifique au volley. C'est-à-dire, la Ligue mondiale, qui est quand même la compétition de référence, même s'il y a les championnats du monde, championnats d'Europe aussi, mais qui débute dans quelques jours, qui a lieu tous les ans. Cette année, est-ce qu'elle va pas servir finalement plus de préparation qu'autre chose? Ou alors, il y a la volonté d'aller la gagner ici pour marquer les esprits, Antoine?
Un peu des deux. On va être en préparation, évidemment, physiquement, etc. On a un objectif qui est à Paris, fin juillet. Mais après, on va jouer. Tous les titulaires et les joueurs importants vont faire toutes les étapes de VNL. Donc, on va tous les matchs, on va les jouer pour les gagner. Après, ça reste de la préparation, mais quand on va sur le terrain, de toute façon, on joue toujours pour gagner. Donc, je pense que c'est important qu'on joue des matchs de haut niveau aussi avant les Jeux. Et d'aller au Final 8 de VNL, de jouer les quarts de finale, de demi-finale, etc. C'est important aussi, je pense, pour notre préparation pour les Jeux. Ça nous avait réussi avant Tokyo, on avait fait une grosse préparation physique, mais malgré tout, on a gardé un niveau de jeu élevé. On avait fait médaille de bronze en VNL avant Tokyo. Donc, on a encore du temps après pour récupérer, pour se régénérer avant de commencer la prépa pour les Jeux. Donc, on va la jouer pour gagner des matchs et on verra ce qui se passe. Mais c'est pas l'objectif de l'été, mais
bien sûr,
on va quand même s'en servir.
Tu as compté le nombre de matchs que tu disputes par an, que ce soit en club ou avec ton équipe nationale. Est-ce que tu t'es amusé à faire ça ou c'est trop le frisson?
Bah, en vrai, on doit être autour de 70-80, je pense.
Oh, c'est énorme.
Avec les déplacements, etc. Hein, donc, ouais, je pense qu'on est par là. Hein, une quarantaine en club et entre 30 et 40 en sélection aussi. Donc, oui, on se plaint plus parce que de toute façon ça sert à rien, mais c'est dur et même si on aime beaucoup ce qu'on fait, il y a des fois où c'est pas facile. Mais
ouais.
Là, en ce moment, on n'y pense pas, on n'y réfléchit pas. On sait que moi, depuis l'été dernier où j'ai eu des vacances un peu après l'Euro, je me dis que là, je baissais la tête jusqu'au jeu et je réfléchissais pas à si on jouait beaucoup, pas beaucoup, la récup, etc. C'était pas. Là, je savais que jusqu'au jeu, c'était à fond. Donc, on est dans cet objectif-là.
Eh ben, on compte sur toi pour rester à fond jusqu'à mi-août, plus exactement, oui. avec cette finale. On l'espère, évidemment. Et on sera derrière vous, l'équipe de France de volley qui nous a effilé le grand frisson il y a 3 ans à Tokyo. On veut le même, Antoine. On compte sur vous.
nous aussi.
Merci. Bonne préparation. Merci bonne Ligue mondiale et surtout bons Jeux olympiques. On sera avec vous et on vivra, évidemment, tous les matchs de l'équipe de France en intégralité sur RMC pendant les Jeux Olympiques. Merci Antoine Brizard, merci d'avoir été avec nous.